vue du point de vue de celui qui crée. C'est ça le monde. Mais nous verrons que le monde, c'est aussi une réalité opaque. Une réalité qui oppose une certaine résistance. On verra. Le monde, donc c'est la matérialité du monde, mais c'est aussi l'opacité. C'est nous aussi, le monde. Dans le monde, elle était. Quoi, la lumière, bien sûr. Elle était dans le monde. Donc nous ne sommes pas sans lumière. Et le monde, par elle, arriva à la lumière. Mais on est passé de parole à lumière. Donc cette parole est une parole qui fait vivre, puisque nous avons dit que la vie était le lieu où parole et lumière ou ainsi. Et le monde, par elle, arriva, et le monde ne la connaît pas. Vous voyez, Saint Jean met quatre sur table dès le départ. Il nous dit, il y a de l'ombre. Et pourquoi y a-t-il de l'ombre? Parce qu'il y a un obstacle entre le soleil, la lumière, et le monde. Il y a un obstacle. Et cet obstacle, c'est la non-connaissance. Je ne connais pas. Et je ne connais pas cet homme. Hein? Entendez? Ne pas connaître. Vous voyez, nous sommes dans un vocabulaire. Le vocabulaire de sagesse, connaître et pas connaître, savoir pas savoir. Nous avons vu, nous avons le début de l'évangile d'Isaïe, hein, chapitre 1er, verset 3. Le bœuf connaît son bouvier, l'âne la crèche de son maître, Israël ne connaît pas, mon peuple ne comprend pas. Le vocabulaire de sagesse. Je ne connais pas. Et pour apprendre à connaître, il faut savoir qu'on ne connaît pas. Christophe a toujours dit ça avant Saint Jean. Saint Jean le redit. Socrate aussi le savait. Mais on ne la connaît pas. Donc il y a une opacité, un obstacle à vaincre. Et cet obstacle, c'est ne pas connaître. Ne pas connaître, ça veut dire ne pas s'ouvrir à. Et la première révélation de la lumière, c'est de nous dire que nous ne sommes pas ouverts à la lumière. Commencement de la sagesse, acquiert la sagesse. Voilà. Commencement de la sagesse, acquiert la sagesse. Donc, commencement de la sagesse, sache que tu n'es pas sage. Sache au point cela. Et quand tu sais que tu n'es pas sage, tu as justement de quoi t'ouvrir à ce qui va te rendre sage. Tant mieux si tu n'es pas sage, tu vas pouvoir recevoir la sagesse. Car si tu es sage, on ne peut pas te donner la sagesse. Commencement de la sagesse, acquiert la sagesse. Ça revient plusieurs fois à l'intérieur du livre de la sagesse, du livre des Proverbes, du livre de la sagesse, du livre de Ben Sirac. Nous tirons un certain nombre de fois chez Ben Sirac et chez. Et les proverbes, vous savez. Vers ses propres elles-mêmes, ses propres quoi? Ne me demandez pas. Hein? Vers ses propres. C'est proche? Oui, c'est proche. Mais, on peut traduire, vous avez entendu la traduction tout à l'heure, dans son bien propre. Puisque quand vous créez quelque chose, c'est votre bien propre. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, comme on dit. Hein? C'est-à-dire, on ne peut pas en faire ce qu'on veut quand on a créé quelque chose. Peut suivre la loi de la création jusqu'au bout. Donc on devient libre par rapport à ce qu'on a créé, ça c'est vrai. Et son propre bien, son propre domaine, comme vous voulez, elle-même, qui la lumière vient d'éclairer ce qui s'ouvre à la lumière. Ah, je commence à comprendre un petit peu. Hein. C'est propre, c'est ce qui peut s'ouvrir à la lumière. Vous avez des couches qui sont tout à fait résistantes à la lumière. La lumière ne passe pas et vous avez des choses à travers lesquelles la lumière peut passer. Vers ses propres, vers ce qui peut s'ouvrir à la lumière.
Et c'est proche ou c'est propre, ne la prive pas avec. Mais ne pas prendre avec, c'est le même verbe prendre, qui va revenir un certain nombre de fois, ne pas prendre avec, c'est-à-dire ne pas découvrir sa connaturalité avec, ses accointances, son amitié avec. Ne pas prendre avec, ça veut dire en quelque sorte s'opposer. Ses proches ne la privent pas avec. Or, tout autant qu'il a pris, ah tiens, il n'a pas, il a pris. Ben oui, c'est bien, c'est exactement ça. On commence par ne pas prendre. On commence par faire la boue. Moi, je n'ai pas envie. Et quand même, ça fait des publicités qui utilisent ce schéma. On entend dire non, et puis, ah, quand même. On entend non. Tout autant qu'il a reçu, tout autant qu'il a pris, elle leur donna autorité pour devenir enfants de Dieu. C'est merveilleux. Et c'est tellement merveilleux que c'est le centre de ce prologue. Donc, si vous ouvrez un tout petit peu, je traduis maintenant, si vous ouvrez un tout petit peu les mains, vos mains vont être absolument remplies. C'est comme si tout le parfum de la lumière allait se répandre dans vous. C'est extraordinaire. Il suffit d'ouvrir un petit peu, et généralement de les garder ouverts. De l'ouvrir, il a fermé tout de suite. Tout autant, hein, ça dépend de vous, tout autant qu'il a reçu ou qu'il a pris, c'est le même mot en grec, et là-bas. Ça veut dire prendre les recevoir. Elle leur donna autorité pour devenir enfants. Il faut une autorité extraordinaire pour devenir petit. Elle leur donna autorité pour devenir enfant de Dieu. C'est presque paradoxe. Hein? Quand on reçoit un tout petit peu, on devient la chose la plus merveilleuse qui soit, enfant de Dieu. Et on a cette autorité. On peut le recevoir en toute vérité. Ça, c'est une parole créatrice. Ça nous donne de devenir enfant de Dieu. On ne l'est pas enfant de Dieu. On le devient. Ça veut dire qu'on le reçoit. Voilà, la lumière de Dieu sur nous. Elle, ou eux, devenir enfant de Dieu. Si je traduis par elle, comme l'ont fait un certain nombre de pères de l'Église, celle, c'est la lumière. Et donc il s'agit de Jésus. Jésus qui n'est pas né de sang, et sang est au pluriel. Généralement, hein, on pensait à l'époque qu'un enfant naissait de la coagulation du sang maternel et de la semence masculine. Non, de sang. Donc c'est une allusion quand même, hein, à l'union conjugale. Alors, si ça se dit de Jésus, évidemment, on comprend qu'il y a une allusion, les pères de l'Église l'ont vu comme ça, qu'il y a une allusion à la maternité virginale. Non de sang, ni de volonté de chair, ni de volonté d'homme, mais de Dieu fut engendré. Ça, si on le dit, au singulier. Et beaucoup de pères de l'Église ont aimé ce singulier. Cette lumière qui n'est pas engendré de volonté charnelle, mais qui vient de Dieu, à travers la virginité. Et c'est vrai qu'on peut certainement le dire comme ça. Mais il y a des manuscrits qui ont le pluriel. Et alors, il s'agit des enfants de Dieu, c'est-à-dire chacun d'entre nous, dans la mesure où nous croyons vers son nom. Croire vers son nom, c'est-à-dire adhérer à sa personne. Et alors, à ce moment-là, quand nous croyons, eh bien, ce n'est pas comme un engendrement matériel, c'est un engendrement spirituel, donc qui ne vient pas de sang, qui ne vient pas de volonté de chair, ni de volonté d'homme, mais de Dieu. Oui. Ça marche dans les deux cas. Et
Vous avez les pères de l'Église, les latins vont dans un sens, les grecs vont dans l'autre. Pas tous, cependant, il y en a qui font un mélange. Il y en a qui prennent les deux. Et la parole, chère. Et elle planta sa pente en nous. Et nous considérâmes, nous contemplâmes, comme vous voulez. Hein. Je rends généralement les aoristes les, par un grec par un passé simple. Et nous contemplâmes, pour un mot que Saint Jean va utiliser, qu'est-ce que c'est que la gloire hein, je vous ai déjà dit que la gloire c'était le poids. L'importance que prenait une personne. La gloire, c'est la vérité de la personne, en fait. Hein. Oui. Considérer sa gloire, hein, ou contempler sa gloire, c'est découvrir combien il est vraiment le lieu où je prends naissance et où je trouve ma plénitude. C'est l'amour manifesté. Mais ce n'est pas n'importe quelle gloire. Hein. Non. C'est la gloire comme d'un unique engendré de chez un père. Comme si un père avait mis tout son amour dans son fils. Exactement comme ça. Mais oui, il prend l'image d'un homme qui n'a pas de nombreux enfants, donc qui ne divise pas en quelque sorte son amour. Il le met tout entier dans la personne de Dieu. On ne croit pas si bien dire. Un unique engendré. Et ce terme unique engendré, ce n'est pas seulement une réalité humaine. C'est engendré par l'unique. L'unique, dans la pensée juive, c'est toujours Dieu. Et un unique engendré, bien, c'est un qui est cependant engendré. C'est Dieu qui est cependant engendré et non passé, comme je dis. De même nature que le Père, c'est par lui que tout a été fait. Vous voyez que le credo reprend exactement les paroles de l'évangile de Jean. Et cette gloire est pleine, ou bien c'est unique et plein, là aussi, hein, vous pouvez prendre l'un ou vous pouvez prendre l'autre, de grâce à Dieu. Grâce et vérité, vous savez d'où ça vient, chapitre 33e, nous avons vu d'ailleurs ensemble, chapitre 33e du livre de l'Exode. Ah, c'est un moment très particulier. C'est le moment où la ténèbre a été vaincue par la lumière. Puisque c'est après le Bondo, chapitre 33e de l'Exode. Donc il y a eu le Bondo. L'obstacle à la lumière. Et puis, une fois que ça a lieu, Moïse retourne vers Dieu pour renouveler l'alliance. Et j'ai dit encore, c'est 34, hein? 34. Au verset 5, il invoqua le nom du Seigneur. Le Seigneur passa devant lui et cria, Seigneur, Seigneur. Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en grâce et fidélité. Voilà. Qui garde sa grâce à des milliers de colères pour transgression et péché, mais ne laisse rien impuni et châtie la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants, qui est la troisième et la quatrième génération. Ça ne va pas au-delà. Tandis que la grâce, elle balaye tout, mais, vous voulez, quand même une justice immanente, pour quelques jours. Sinon, ça signifierait que Dieu est tellement débonnaire qu'il ne fait plus attention à la faute. La faute, là, ça. Donc, au fond, tout ce qu'il a dit à propos de l'obstacle, de la ténèbre, ça atteint Dieu. Mais Dieu passe à travers. Donc, il y a quand même un passage à réaliser. Et ce passage se réalise moyennant une prise de conscience qu'on est obstacle. Alors, pour découvrir un tout petit peu quelque chose de ce chapitre,
je vais prendre un passage du chapitre 8e du livre des Proverbes. Même Proverbes, chapitre 22, chapitre, pardon, 8, versets 22 à 31. Ah, c'est la sagesse, c'est-à-dire la parole. La parole qui vient de Dieu, qui est royale, car la sagesse est toujours royale, je vous l'ai dit, et elle raconte comment elle est née. Ah tiens, alors c'est de naissance qu'il s'agit. Et ici aussi c'est de naissance qu'il s'agit, que nous devenons enfants de Dieu. Le Seigneur m'a créé au début de tes œuvres, avant tes œuvres les plus anciennes, avant les plus anciennes, parce que c'est avant le commencement, en commencement, voilà. Dès l'éternité, je fus fondé. Vous voyez la parole? C'est drôle, hein? Combien l'Ancien Testament donne à Jésus juste ce qu'il faut, le langage, la réalité, pour que Jésus puisse se rendre. Et on s'étonne parfois pourquoi il y a quelque chose dans les évangiles. Mais parce que la grande majorité des évangiles se trouve dans l'Ancien Testament. Si vous ne lisez pas l'Ancien Testament, comment pourrez-vous lire les évangiles, hein? Puisque les évangiles ne nous disent qu'une toute petite partie de ce que Jésus remplit. Dès l'éternité, je suis fondé, dès le commencement, tiens, avant l'origine de la terre. Saint Jean, il a quand même des lettres, hein? Quand l'abîme n'était pas, je suis enfanté. Quand n'étaient pas les sources jaillissantes, avant que fussent implantées les montagnes, avant les collines, je fus enfanté. Donc la sagesse, la parole de sagesse, précède en quelque sorte la création. Avant qu'il eût fait la terre et la campagne, et les premiers éléments de la poussière du monde, il a fermé les cieux, c'est cela. Quand il traça un cercle à la surface de l'abîme, quand il condensa les nuées d'en haut, quand il fixa les sources de la lune, le haut et le bas, quand il assigna son terme à la mer, et les eaux n'en franchiront pas le bord, quand il a terminé les fondements de la terre, voyez, terre et mer, c'est vraiment la parole qui distingue, j'étais à ses côtés. La parole était tout contre Dieu, comme un petit enfant tout contre Dieu. J'étais à ses côtés, comme un fils unique engendré, comme le maître d'œuvre, comme celui à partir duquel tout va pouvoir avoir sa place. Faisant ses délices jour après jour, m'ébattant tout le temps de sa présence, m'ébattant sur la surface de la terre, ou jouant, et mettant mes délices à fréquenter les enfants des hommes. La sagesse de Dieu se met à la disposition de l'homme. La sagesse est regardée ici comme une petite fille. La sagesse est tantôt une femme et tantôt une enfant. Et puis elle va devenir le fils, l'unique enfant. Or, à présent, mes fils, entendez-moi, écoutez l'instruction et le message, ne la méprisez pas. Heureux ceux qui gardent mes voix, comme un. Heureux l'homme qui m'entend, qui veille jour après jour à mes portes pour en garder les montants. Car qui me trouve la vie? Oui, que Saint Jean a baigné dans tous ces livres de sagesse que nous connaissons trop mal. Il obtiendra la faveur du Seigneur, mais qui m'offense, blesse son âme, quiconque me hait, chérit la mort. Dans le même domaine. Bien que du Deutéronome, le chapitre 30e du Deutéronome est tout entier sagesse. Mais il faut aussi que j'aille un peu plus loin et que je prenne dans le vieux Ben Sirac, hein, que nous traduisons par l'Ecclésiastique, nous prenions le chapitre 24e. Beau chapitre. Le chapitre
qu'on peut souvent expliquer à l'examen. Tellement beau. Ecclésiastique ou Ben Sirac 24. La sagesse est son propre éloge. Et surtout, nous tombons que le discours de la sagesse, elle dit qui est. La sagesse est son propre éloge. Au milieu de son peuple, elle montre sa fierté. Elle se glorifie, si je traduis littéralement. C'est une de gloire, c'est dans l'assemblée du Très-Haut, elle ouvre la bouche. C'est une parole. Devant la puissance, elle se glorifie. Moi, je suis issu de la bouche du Très-Haut. La parole vient de la bouche du Très-Haut. Et comme une vapeur, j'ai couvert la terre. Vous vous rappelez, hein, l'Esprit de Dieu qui planait comme une vapeur sur l'eau, là, planait sur les eaux. J'ai couvert la terre. Moi, j'ai habité dans les cieux. Et mon trône était une tente de nuée. On traduit souvent par colonne, mais c'est tente. Une tente de nuée. Seul, j'ai fait le tour du cercle des cieux. J'ai parcouru la profondeur des abîmes, donc le haut et le bas de nouveau. Dans les flots de la mer, sur toute la terre, nous trouvons le fait que vous mouillez. Chez tous les peuples et toutes les nations, voilà le tout de Saint Jean qui revient, j'ai régné. La sagesse est reine. Pourquoi? Mais parce qu'elle est le pauvre. La sagesse, c'est ce que chacun, le plus petit, peut faire. Chacun peut avoir un peu de savoir-faire. Chacun peut au moins faire une bonne chose. Ça, c'est d'avoir beaucoup de savoir. Parmi eux tous, j'ai cherché le repos. J'ai cherché en quel héritage m'installer. Alors, le créateur de l'univers m'a donné un ordre. Celui qui m'a créé m'a fait dresser ma tente. Il m'a dit, installe-toi en Jacob, c'est-à-dire littéralement, mets ta tente en Jacob. Entre dans l'héritage d'Israël. Avant les siècles, en commencement, il m'a créé. Avant les siècles, en commencement. Et nous sommes dans, nous avons des proches parents de ce texte. Dans la même famille. Éternellement, je subsisterai. Dans la tente sainte. C'est vrai, quelqu'un qui vient bâtir sa tente dans la tente. La tente sainte, c'est là. Le final, c'est la présence de Dieu. En sa présence, j'ai officié comme un prêtre. C'est ainsi qu'en Sion, je me suis établi. Et que dans la cité bien-aimée, j'ai trouvé mon repos. Qu'en Jérusalem, j'exerce mon pouvoir. Je me suis enraciné chez un peuple plein de gloire, dans le domaine du Seigneur, en son héritage. J'ai grandi comme le cèdre du Liban, comme le cyprès sur le mont Hermon, j'ai grandi comme le palmier d'Engedi, comme les plants de roses de Jéricho, comme un olivier magnifique dans la plaine, j'ai grandi comme un platane, comme la cinnamome et la spalate, j'ai donné du parfum, comme une lyre de choix, j'ai embrouillé, comme du galbanum de l'onyx et du stacte, comme la vapeur dans l'instant. Tout ce qui sent bon. La sagesse, c'est ce qui sent bon. Quand on me sage, on parcourt la maison. Ça, c'est la qualité de la vie. J'ai étendu mes rameaux comme le térébinthe. Ce sont des rameaux de gloire et de grâce. Je suis comme une vigne au ventre charnel. Et mes fleurs sont des produits de gloire et de richesse. Venez à moi, vous qui me désirez, et rassasiez-vous de mes produits, car mon souvenir est plus doux que le miel, mon héritage est plus merveilleux. Tout ce qui goûte, ça reste important, ça se goûte. Ceux qui me mangent auront encore faim, ceux qui me boivent auront encore soif. Saint Jean a lu, vous savez, ce pasteur. Celui qui m'obéit n'aura pas à en rougir, et ceux qui font des œuvres, ils font ça. Tout cela n'est autre que le livre de l'alliance du Dieu très haut, la loi promulguée par Moïse. La loi, c'est rien d'autre que ça. C'est la sagesse. Elle dort dans les épinards. Elle sucre sur les fèves. C'est ce je ne sais quoi de plus. C'est ce surplus. Il fait que ce qui est bon est bon.
fait que le café n'est pas bon quand on n'en met pas. Donc il fait qu'il est bon quand on en met. Laissez en héritage aux assemblées de la terre. Et puis alors on voit, et moi, ah tiens, voilà le témoin qui vient. Je suis comme un canal issu d'un fleuve. Le sage, c'est celui qui laisse passer la parole. Et Saint Jean est en train de nous livrer une parole. Il est en train de dire, lorsqu'il dit ce qu'il dit, ce que fait Jean-Baptiste quand il est ce qu'il est. Il rend témoignage à la lumière, tout en disant ce qu'est rendre témoignage.
C'est mon père ça que j'ai vu quelqu'un. On va stopper un carton.
C'est une reprise du passage de Belsirac sur la sagesse. Donc ici, on a identifié quelque peu la parole à la sagesse. Et vous voyez que la sagesse elle-même est personnifiée dans l'Ancien Testament. Pour parler dans le Nouveau, elle est déjà personnifiée dans l'Ancien Testament. Elle n'a pas une histoire concrète. Voilà la différence. Avec Jésus, elle va prendre un visage humain concret. Ce n'est pas seulement une personnification. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Elle devient maintenant un personnage historique. Et on passe d'une certaine transposition sapientielle dans les sages à une réalité d'histoire qui est exprimée de façon claire et précise par le terme « devin ». Devenir, c'est l'histoire humaine. Et la parole chair arriva et elle planta sa tente en nous et nous considérâmes sa gloire. Nous avons contemplé la réalité d'amour qu'elle manifestait. Gloire, et alors on va entrer dans les relations d'amour d'un unique engendré de chez un père. Donc c'est une relation d'intimité. Plein de grâce et de vérité, si c'est l'unique engendré, plein de grâce et de vérité, si c'est la parole. Et puis nous avons les quatre versets de la fin. Et la parole, pardon, Jean rend témoignage à son sujet. Donc on reprend le personnage de Jean. Jean rend témoignage à son sujet, le sujet de la parole, le sujet de la lumière, et il a crié. Alors le crier, évidemment, nous rappelle le crier de Dieu, parce que Dieu crée, quand on dit qui, quand il crée. Crier, créer. Crier, c'est appeler, c'est dire un nom. Et vous trouvez encore cette crier de la part de Dieu, vous la retrouvez au chapitre 40e d'Isaïe, on vous l'a passé. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui de son service fini, de son péché est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur, double punition pour tous ses crimes. Une voix qui préparez dans le désert une route pour le Seigneur. Passez droit dans la steppe, un chemin pour notre Dieu, car la bouche du Seigneur a parlé. Une voix ordonne, fit. Il se répondit, que dirais-je ? Toute chair est comme l'herbe, etc. Donc c'est le début du livre de la consolation, chapitre 40e d'Isaïe. Ce chapitre 40e d'Isaïe commence par la parole, par la criée de la parole, qui est une création. Le salut est toujours une création. La création est toujours un salut. Et puis, je termine les quatre versets, et puis nous verrons que c'est aussi repris. Jean rend témoignage à son sujet, il a crié. Donc, reprenant la voix du prophète au chapitre 40e, disait. Disant, celui-ci était. Donc je dis, celui qui vient, qui est celui qui derrière moi vient, devant moi est arrivé. Donc, il vient derrière moi et il est arrivé devant moi, c'est-à-dire il me suit tout en me précédant. C'est ça qui est extraordinaire. Il me suit dans le temps, mais il me précède dans l'importance. Et c'est lui qui me fait crier. Donc Jean parle pour cet aspect. Il dit qu'il est là pour dire que c'est l'autre qui est là. Parce que premier de moi, il était. Premier, bien sûr, dans l'ordre de la réalité divine, Dieu précède toujours l'homme. Premier de moi, parce que c'est au fond, Jean-Baptiste vient à la suite de la parole de Dieu qui a traversé déjà tout l'Ancien Testament. Parce que de son accomplissement, alors, dans un terme de Johannique, vous voyez, il met tout en œuvre dès le départ, les cartes sont distribuées. Parce que de son accomplissement, nous, Raquel, elle planta sa tente en nous, nous considérâmes sa gloire, nous tous. Vous voyez, hein, depuis le verset 14, nous faisons partie du texte. C'est, bien sûr, c'est le nous de la communauté johannique. Nous reviendrons là-dessus sur la communauté johannique plus tard. Mais c'est aussi nous lecteurs. De son accomplissement, nous tous nous recevons. Donc c'est que d'une manière ou d'une autre, nous faisons partie de son accomplissement. De son accomplissement, qu'est-ce que c'est qu'accomplir ? Accomplir, ce n'est pas seulement venir, comment dirais-je, au rendez-vous. On vient au rendez-vous de l'histoire, on a pris rendez-vous avec quelqu'un et on vient. Bon, c'est une sorte d'accomplissement. Accomplissement, ça peut être pris aussi dans le sens de observer. J'observe quelque chose qui a été demandé. Je l'accomplis. J'accomplis mon devoir, j'accomplis une tâche. Accomplir veut dire aussi je confère à la présence de Dieu et à la parole de Dieu qui a traversé cette histoire, je lui confère une actualité. Elle est vraie encore aujourd'hui. Mais nous verrons que l'accomplissement pour Saint Jean, c'est vraiment la présence de Jésus lui-même qui s'inscrit dans la réalité concrète de tous les hommes, de chacun. Parce que son accomplissement, nous tous, nous aussi, ou nous primes, c'est la même chose. Et grâce contre grâce, grâce sur grâce, grâce après grâce, de grâce en grâce, voilà. Il y a, je crois, 7 ou 8 façons de traduire cette expression. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Tout ça et encore bien d'autres choses, probablement. Ça traduit vraisemblablement l'hébreu, œil pour œil, dent pour dent, contre dent. Hein? Est-ce que ça veut dire une sorte de marchandage, d'échange? Oui, ça peut vouloir dire cela. Un échange de grâce. Il y a une grâce de l'Ancien Testament, une grâce du Nouveau. Un certain nombre de pères de l'Église ont pris ça dans ce sens-là. Ça veut dire ça aussi. Est-ce que ça veut dire la grâce se renouvelle constamment? C'est une grâce. Une grâce en chacune autre, si vous voulez. C'est possible. Mais c'est certainement un mouvement dynamique. Grâce contre grâce, grâce sur grâce, grâce après grâce. Sans qu'il faille voir, me semble-t-il, une distinction absolue entre Ancien et Nouveau Testament. Parce que parfois, comme le verset 17 peut le laisser entendre, c'est comme ça qu'on l'a traduit. Parce que la loi, par Moïse, fut donnée, la grâce et la vérité, par Jésus, arriva. Un certain nombre d'exégètes ont opposé l'un à l'autre. Comme si la loi de Moïse m'a maintenant dépassé. Et puis la grâce de la vérité, ça c'est nouveau, arriva par Jésus. Et un certain nombre d'autres, dont les pères de l'Église anciens, préfèrent dire
Et ici, nous avons l'expression de l'accomplissement. C'est-à-dire que ce qui était déjà révélé, comme en figure, reçoit maintenant son visage historique de Jésus. Notez qu'il faut attendre le verset 17 pour que le nom de Jésus, Christ, arrive. La loi de Moïse fut donnée, mais la grâce et la vérité, c'était déjà la révélation de Dieu à Moïse. Mais elle arriva, elle devint en Jésus. Donc elle se révélait déjà, elle était déjà présente dans la parole de Moïse, mais cette réalité devient figure historique en Jésus-Christ. Et pas n'importe quel Jésus, mais Jésus-Messie. Donc, c'est vraisemblablement la ligne de l'accomplissement que Jésus manifeste. Nous aurons l'occasion de voir ce que signifie l'accomplissement. On l'annonce ici, mais il va traverser tous les ans. Et puis, il y a ce verset 18e, qui est comme une conclusion, mais qui est en même temps aussi un envoi de l'Évangile, Dieu. Donc la réalité divine, personne ne l'a vu jamais. Et justement, je faisais allusion tout à l'heure au chapitre 34e de l'Exode, eh bien, c'est là justement que se pose la question, et l'objet de ma maîtrise tout à l'heure, quand j'ai pris 33 au lieu de 34, je ne sais pourquoi tout de suite, mais d'abord, là, c'était Dieu de tendresse et de pitié, donc c'était la révélation, et vous voyez que cette révélation se passe comme une parole. Dieu s'annonce, Dieu est parole. On ne le voit pas autrement que dans la parole. Et on sait bien que, et c'est dit un tout petit peu avant, au chapitre 33e justement, Moïse dit au Seigneur, chapitre 33, verset 18, fais-moi de grâce voir ta gloire. Il dit, je ferai passer devant toi toute ma splendeur et je prononcerai devant toi le nom du Seigneur. Vous voyez, pour Dieu, dire sa gloire, c'est dire. J'ai compassion de qui je veux et j'ai pitié de qui bon me semble. Voilà une première approximation de Dieu. Quand Dieu dit ce qu'il est, il dit qu'il a compassion et il a pitié. Et de qui je veux et de qui bon me semble veut dire, bon, ma miséricorde est gratuite. Elle ne dépend pas de l'attitude de l'homme. Ce qui est exprimé par qui je veux ou à qui bon me semble. Il ajouta, tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et demeurer en vie. Un système de vie qui est. Et Saint Jean dit, nous avons contemplé sa gloire. Donc c'est ce que Moïse voulait voir, qu'il a de toute manière perçu, à un certain point, et qu'il nous est donné de voir en Jésus, dans une figure historique. Tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et demeurer en Jésus. Le Seigneur dit encore, voici une place près de moi, tu comptes sur moi. Donc ça dit la proximité. Tu te tiendras sur le rocher. N'oublie pas que le rocher est un symbole de Dieu. Et quand passera ma gloire, je te mettrai dans la fente du rocher. Et je t'abriterai de ma main durant mon passage. Manière de dire, je ne peux pas voir Dieu face à face. Mais je peux découvrir son passage dans ma vie. Et quand il passe, il dit quelque chose. Puis j'écarterai ma main, et tu te verras de dos quand je serai parti. Mais ma face, on ne peut pas la voir. Et pourtant, un tout petit peu avant, au verset 11, du chapitre 33 de l'Exode, il y avait ceci. Le Seigneur conversait avec Moïse face à face, comme un homme converse avec un ami. Ça dit bien la proximité. Et cela va être repris au chapitre 34e du Deutéronome. Le Seigneur conversait avec Moïse, face à face, comme un homme converse avec un
Vous voyez, à la fois proximité et distance. Et on dirait que cette distance est en quelque sorte paralysée, mais dépassée par la présence de Jésus. Mais c'est la même, et si je m'en souviens, l'enracinement dans le livre du Deutéronome et dans le livre de l'Exode, c'est pour bien voir qu'il n'y a pas une opposition, mais une sorte de réalisation plénière. Donc au chapitre 34e, dernier chapitre du Deutéronome, au verset 10, voici ce qu'on dit, « Il ne s'est plus élevé en Israël de prophète pareil à Moïse, lui que le Seigneur connaissait pas à pas. » Que le signe et le prodige, ah tiens, le signe et le prodige, nous allons voir que ça va être intéressant pour la lecture de Saint-Jean. Le Seigneur lui fit accomplir au pays d'Égypte, contre Pharaon, tous ses serviteurs et tout son pays. Je termine. Parce que la loi par Moïse fut donnée, la grâce et la vérité par Jésus arriva. Fut donnée, c'est ce qu'on appelle la partie divine. C'est Dieu qui donne. Alors vous avez un terme au passif, que le sujet n'est pas déterminé, hein, il s'agit de Dieu. La grâce et la vérité par Jésus arriva, devint. Dieu, personne ne l'a vu jamais, même pas Moïse. Pourtant, il conversait face à face avec Dieu, et pourtant, il ne l'a pas vu. Il a vu sa parole. Il a vu sa parole. On voit Dieu dans sa parole. On voit Dieu dans ses œuvres. La parole, dans l'action. Ce qui est proféré de l'arrière vers l'avant, comme je vous le disais tout à l'heure. Un unique engendré Dieu, ou un unique engendré Fils. Vous voyez les deux, l'expression dans les manuscrits. Mais ici, vous voyez, Dieu est indispensable, ou bien Fils, remis en évidence, car tout à l'heure c'était un unique engendré de chez Marseille, c'était encore indéterminé. Ici, c'est déterminé. C'est un unique engendré qui est Dieu. C'est un unique engendré qui est vraiment fils, le fils. Celui qui est vers le sein du Père. Je vous rappelle, le verset 1, la parole est faite auprès de Dieu. C'est encore après ça, Dieu et la parole. Maintenant, c'est Jésus, fils unique engendré, qui est vers, tourné vers le sein du Père. On est passé de Dieu à Père, moyennant une filiation. On a découvert qu'on avait le pouvoir, nous avions le pouvoir, d'être reçu, le pouvoir d'être enfant de Dieu. Dieu, personne ne l'avait jamais vu, mais le unique engendré qui est dans les reins du Père, celui-là, expliqua. En fait, c'est le terme grec, c'est faire l'exégèse. Jésus est à la fois l'exégèse, et l'exégète, ce qui est écrit. Il explique ce qu'il y a à expliquer. Qu'est-ce qu'il a à expliquer? Expliquer, c'est déployer. Déplier. Alors, egesato, en grec, dit une image un peu différente. C'est celui qui montre le chemin. Celui qui fait parcourir. Donc il est en quelque sorte déjà la route. Ah, nous verrons ça au chapitre 16e, je peux dire le chapitre 14e, mais c'est déjà présent. Alors, je vous prends un petit passage que nous avons vu l'an dernier, qui est la conclusion du livre de la Consolation. Donc le chapitre 55 d'Isaïe. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y remontent pas sans avoir arrosé la terre, l'avoir fécondée et fait germer, pour qu'elle donne la semence au semeur et le pain comestible, de même la parole qui sort de ma bouche ne me revient pas sans résultat, sans avoir fait ce que je voulais et réussi sa mission. nous trouvons hein, tout le chemin du prologue, là, déjà, en ouvrant.
Quel chapitre ?
55. 55-10, tu nous l'as dit, 10 et 11. Voilà. 55-10-11. Et donc, il reprend le début, hein, la parole, c'est un chemin. Et voyez, le prologue, c'est là. Il montre comment la parole descend de Dieu, vient d'autre de Dieu. C'est que nous devenions enfants de Dieu, c'est nous qui sommes au centre du prologue. Et nous remontons avec lui. Il remonte avec nous. Bien, je montre un petit dessin par après, mais c'est pour vous dire qu'il y a quelque chose de très visuel chez Saint Jean. Ce chemin de la parole qui travaille l'humanité, comme la création travaille l'humanité, donc c'est tout le mouvement de création et tout le mouvement de rédemption. C'est toute l'histoire qui est parcourue par la parole vivante, par la parole de Dieu qui devient parole vivante, et qui a besoin de porteurs. Comme elle avait besoin de porteurs dans l'Ancien Testament, qui étaient les prophètes, le porteur du Nouveau Testament, c'est Jean. Celui qui est le témoin de la grâce de Dieu. Il n'est que grâce. Une voix dit, crie, que crierai-je ? J'écris qu'il faut crier. Nous allons voir que Jean-Baptiste va se définir lui-même comme la voix. La voix de celui qui crie. Il n'y a même pas le cri, il est la voix de celui qui crie. Une voix, c'est un son. La voix, ce sont des sons qui parcourent l'espace. Mais le contenu, il nous dépasse. Comme d'ailleurs le contenu de ce prologue. On pourrait maintenant passer tous les jours à reprendre le prologue. Il fait différent chaque jour. Mais c'est au fond ce que nous allons faire. Nous allons le faire en prenant l'Évangile et en voyant comment l'Évangile va mettre des images, des réalités concrètes sur les mots du prologue. On va, à travers l'Évangile, découvrir le chemin de cette parole, le chemin concret de cette parole.